Pruvot. Sa passion, la cuisine et l'écriture. Il y a un an, elle décide de les réunir dans un blog joliment intitulé « Des coquinards rerum ». C'est parce qu'elle aime cuisiner qu'elle s'est intéressée au lieu. Son blog s'intéresse avant tout à la pièce, cette pièce centrale dans une maison, pièce de réunion, de confidence, lieu de vie par excellence. Elle a donc décidé d'en retracer l'histoire depuis ses origines et surtout d'aller visiter en Isère les cuisines des lieux prestigieux comme celle du château de Visille, du musée Berlioz, du musée Bergès et bien d'autres. Elle raconte aussi la cuisine à travers des rencontres, à travers le cinéma, la littérature, la peinture, le nez dans les archives, dans les livres, dans la presse. Elle restitue un travail très documenté, illustration à l'appui. C'est un véritable voyage qu'elle nous offre avec une belle touche d'humour, et bien oui, sérieuse mais aussi coquine.
13h30, 14h, Michel Caron, France Bleu Isère.
Sophie Pruvot, bonjour.
Bonjour.
Alors, ça fait un an que vous remplissez votre blog Des coquinards rerum, un blog qui marche vraiment bien. On se rend compte que la cuisine intéresse beaucoup de monde. Des coquinards rerum, définition ?
C'est des, à propos de la cuisine.
À propos de la cuisine, voilà. De la nature de la cuisine.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce qui vous a décidé, Sophie, à partager votre passion pour la cuisine en tant que pièce ?
Parce que un système de constats, différents constats, et surtout que c'est une pièce qui est au centre de nos vies, mais aussi au centre de nos émotions. Que ça va des confidences des enfants, ça va du voisin ou de la voisine qui vient se faire consoler, c'est aussi des moments de joie et des moments beaucoup plus rigolos, de partage. Donc on est sur de l'émotion, sur du partage, sur la vie, quoi.
Oui, la vie se passe dans la cuisine, finalement.
C'est ça.
Alors, vous êtes vous-même cuisinière ?
Oui.
Enfin, bonne cuisinière ?
J'essaye.
Je pense que vous y arrivez. Et c'est un peu ça qui vous a fait, hein. Vous étiez dans votre cuisine, vous êtes souvent dans votre cuisine, et comme vous disiez, hein, c'est la question du petit à laquelle on n'a pas forcément envie de répondre.
C'est ça, c'est les devoirs qui se transforment en confidence. C'est la fin de la préparation du repas, ou je ne sais pas, est-ce qu'on a le dos tourné, est-ce que les odeurs libèrent un peu la parole, mais c'est toujours des moments forts, et je me suis rendu compte autour de moi que c'était un peu ça, que chacun avait une anecdote, un moment fondateur de sa vie à raconter en cuisine.
Alors, vous retracez l'histoire de la cuisine, de ses origines à nos jours. Alors, à quand remonte son origine ?
Alors, je suis pas historienne, mais pour mon propos, en tout cas, moi, je le place évidemment à l'apparition du feu, parce que donc c'était il y a 400 000 années avant Jésus-Christ.
Avant Jésus-Christ.
Et du coup, cette découverte du feu, ça nous a permis plein de choses. Ça nous a permis de vivre plus vieux, d'avoir chaud, de cuire des aliments, donc de pouvoir développer un peu notre alimentation aussi, alors qu'avant on vivait de cueillettes et des choses crues. Mais ça nous a entre guillemets obligés aussi à nous rassembler autour de ce feu qui était salvateur pour beaucoup. Et du coup, je me suis amusée à imaginer ça, que c'était les origines de la convivialité, donc ça veut dire vivre ensemble. Pourquoi ? Ben, on se rassemble autour de cette flamme qui nous apporte beaucoup.
Alors, ce blog, je le disais, s'intéresse à la cuisine, à la pièce. Alors, cela dit, il y a également des recettes, mais ça n'est pas votre visée, c'est vraiment la pièce qui vous intéresse.
Oui, c'est ça. Je ne vais pas me battre sur le front des blogs de recettes de cuisine. Il y en a d'excellents. Moi, j'aime bien regarder ce qu'il y a derrière, quoi. Et c'est vrai, on dit lire entre les lignes, et moi, j'aime bien regarder ce qu'il y a derrière aussi. Et derrière une recette, il y a aussi tout un monde, et plutôt sur des émotions et sur du lien, sur du vivre ensemble.
Il y a également des rencontres, hein, dans des témoignages dans votre blog. On y reviendra, Sophie Pruvot. Quand vous visitez les cuisines des lieux prestigieux, on citait le musée Berlioz, la maison Bergès, ça se passe comment ?
Alors, soit dans le cas d'une visite familiale, traditionnelle, comme tout le monde peut le faire, soit quand j'ai envie vraiment de creuser, ou quand c'est plus difficile, comme par exemple la maison Bergès, où là, la cuisine n'est pas du tout visible en l'état actuel, je prends le culot de prendre mon téléphone ou mon email et d'aller rencontrer les gens qui s'occupent du musée, d'aller poser mes questions, de mettre les pieds dedans, dans la cuisine.
Et vous, quand vous ne la voyez pas, vous l'imaginez ? Parce que alors, vous faites un travail complètement dingue, hein, de recherche. Je disais le nez dans les archives, parce qu'effectivement, notamment en ce qui concerne la maison Bergès, je crois qu'il n'y a pas de cuisine à la maison Bergès.
Il n'y a plus l'emplacement. Hein. On ne peut effectivement que l'imaginer. Donc, mais comme j'ai eu accès aux plans, aux anciens plans de la maison, J'ai pu le redessiner par-dessus les photos actuelles, donc ça permet aussi d'imaginer. Mais c'est vrai que moi, quand on me fait rentrer dans une maison, qui dit maison dit cuisine. Donc moi, si je vois pas de cuisine, je vais la demander et elle est forcément là. Alors ça, c'est un petit peu cocasse, mais ça permet aussi d'apprendre des choses un petit peu en décalage par rapport à ce qui est présenté habituellement dans un musée notamment.
Alors les gens vous regardent un petit peu bizarrement, en disant mais qu'est-ce que, parce que dans un musée Bergès, on va s'intéresser à l'hydroélectricité,
oui.
À la houille blanche, et vous, vous vous intéressez aux cuisines.
À la vie de famille, à ce qui a pu être fondateur et constructeur, et à ce qui a pu se passer dans cette pièce-là, dans cet endroit-là, parce que forcément c'est essentiel. Et finalement on apprend aussi beaucoup sur l'homme. Et pour ce qui concerne Bergès, assurément, moi j'ai découvert en fait un homme très humaniste et généreux. C'est lié à sa propre histoire, parce qu'il a eu une enfance, et il a eu un père assez sévère qu'il a rejeté et qu'il a eu à couper les vivres, faut le dire. Bon, ben, au lieu de recréer ce schéma-là, Aristide Bergès, lui, il a réagi en contre-pied et par générosité. Donc, il était vraiment très connu pour son humanisme. Il voulait donner aux gens, partager. Ça se ressent beaucoup dans les photos de famille que j'ai eu la chance de voir à cette occasion-là.
Alors, on va y revenir, on va pousser les portes du château de Vizil, aussi du musée Berlioz. On vous retrouve juste après John Lee Hooker sur France Bleu Isère.
France Bleu Isère.
C'est super. Merci, c'est vraiment gentil. Merci mille fois, France Bleu. Hein.
Écoutez, on est bien ensemble.
Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down. At all your feet. Take you home with me. Would you in my house? Boom, 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 boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. They're on my feet. How, 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 how. Walk that walk and talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, 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 how. Yeah, yeah. Now, baby.
John Lee Hooker sur France Bleu Isère, passez une excellente après-midi.
Jusqu'à 14h, les portraits de l'Isère.
Et nous accueillons aujourd'hui Sophie Pruvot. Vous alimentez depuis presque un an un blog qui s'intitule « Des coquina rerum ». Vous attachez à la cuisine, au lieu de la cuisine, pas à la cuisine qu'on mange. Vous êtes donc allée visiter la cuisine du musée Berlioz. La marche triomphale de Berlioz. Alors racontez-nous cette visite, Sophie Pruvot.
Alors donc je suis allée à la Côte Saint-André visiter le musée Berlioz qui se trouve dans la maison natale de Berlioz. Et puis donc on trouve la cuisine en plein milieu de cette maison bourgeoise, au cœur de la maison. Là vraiment elle est dans l'axe central au premier étage et on a la chance d'avoir cette cuisine en parfait état de conservation. J'ai appris que le mobilier n'était pas forcément d'origine, mais en tout cas était d'époque et d'inspiration dauphinoise pour être au plus proche de la réalité. Et la cuisine en elle-même présente cette particularité, notamment d'avoir l'alcôve de la domestique, et qui là est une spécialité des maisons dauphinoises. C'est typique, puisque donc la domestique des Berlioz vivait et dormait dans la cuisine, donc dans le cœur de la maison. Moi, je l'interprète comme ça parce que c'est mon truc, mais du coup, tout de suite, j'imagine quand même le petit Berlioz en train de venir chiper un truc.
Dans les jupes de la domestique.
Dans les jupes.
Oui, parce que vous me disiez, lorsqu'on préparait l'émission, qu'elle était vraiment intégrée à la famille. Elle avait même une certaine autorité, cette domestique.
Oui, on a, à l'occasion d'une correspondance, on a un témoignage qui tente à penser que la domestique se permettait même parfois des petites réflexions déplacées quant à son rang.
Alors, autre chose, autre particularité de la maison Berlioz, c'est qu'ils vivaient pratiquement en autonomie grâce au jardin, aux vignes, aux bêtes.
Voilà, cette famille avait effectivement des bois, des terres, des bêtes et pouvait, en termes d'alimentation, quasiment être en autonomie. Encore une référence au Dauphiné, puisqu'ils faisaient leur propre huile de noix, bien sûr. Et au final, ça permet quand même d'avoir peu de dépenses pour le domaine alimentaire, mis à part peut-être le café, le savon, des choses qu'on ne pouvait pas produire à l'époque.
Et ils produisaient leur vin aussi.
Et ils avaient des vignes, effectivement.
Les vignes isaroises qu'on remet de plus en plus en valeur, et ça, c'est une bonne chose. Alors, du musée Berlioz, on saute à la maison Bergès. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez, grâce à vos recherches, réussi à trouver où était placée la cuisine, qui n'est plus visible actuellement. Et ce qui vous a marqué dans la maison Bergès, outre le côté très humaniste de Bergès, ce sont les photos.
Oui, on a tout un tas de témoignages de vie de famille, en fait. Donc, c'est évidemment des photos qui sont pas exposées. Et je me sens vraiment très chanceuse d'avoir eu accès à ces témoignages-là. Pourtant, à une époque où la photo n'était pas démocratisée comme aujourd'hui. Donc, on se dit, on peut penser qu'il fallait poser et faire une photo de temps en temps quand c'était nécessaire. Et là, moi, j'ai eu accès, j'ai pu voir des tranches de vie, des moments de vie de famille où ça rigolait quand même pas mal chez Bergès, avec tout le monde. D'autres photos plus posées, et des photos notamment de la vaisselle, comme j'ai pu le mettre sur l'article,
oui.
Des choses assez croquignolesques.
C'est joli, croquignoleste, sur Coquina Rerum. Oui, on précise que votre blog est vraiment alimenté de photos, voire de vidéos, je crois, aussi.
Quand je peux, oui, je fais des liens vers des vidéos,
donc,
oui.
Donc c'est très, très convivial, comme
j'essaie d'illustrer, oui.
Le château de Vizille, ce sera notre dernière visite. Vous y êtes allé, alors on rappelle, le château de Vizille qui a accueilli tous les présidents de 1924 à 1974, sauf Doumer.
Voilà, 6 présidents. C'était une résidence présidentielle pendant ces années-là. À savoir qu'en 1924, par exemple, le président n'avait que 3 résidences qui lui étaient dédiées. Il y avait, alors de mémoire, l'Élysée, Rambouillet, si je ne me trompe pas. Et Vizille. Donc c'était quand même, c'est pas comme aujourd'hui. Et effectivement, les présidents venaient passer des quelques vacances, quelques journées de détente à Vizille. Et on a un merveilleux témoignage de l'épouse du président Lebrun, qui a tenu un journal toute sa vie. Et donc, on peut avoir les extraits de notamment 2 étés qu'elle a pu passer à Vizille. J'ai beaucoup aimé sa première arrivée dans le château, où elle raconte sa vision face à cette immense bâtisse, à cet immense château, où en fait, les enfants avaient le droit de se promener dans le château, mais que accompagné d'une carte de la carte des lieux en main pour
avec
pas
un plan.
Voilà avec un plan pour pas se perdre et elle décrit notamment son arrivée et la découverte de la cuisine et de cet endroit là avec les fourneaux avec les pièces attenantes avec la glacière.
Une pièce particulière.
Une pièce à part qui est au plein centre du château, la plus fraîche pour conserver les aliments et qui nécessitait 100 kilos de glace par jour.
Ouh.
Voilà, pour alimenter et pouvoir utiliser cette pièce en tant que telle.
Vous avez visité la cuisine du château de Vizille ?
Oui, alors tout le monde y passe chaque jour
public,
parce
ouais.
que c'est une salle aujourd'hui d'exposition. Mais là encore, j'ai mis des photos comparatives où du coup les gens pourront reconnaître aisément cette pièce. Moi, je l'ai reconnue assez facilement grâce notamment à la cheminée, à la hotte qui permet d'identifier dans un endroit ce qui fut la cuisine.
Oui, partout où vous allez, vous cherchez la cheminée,
c'est ça.
Hein, Sophie Prévost. Bon, vous restez avec nous, on va parler aussi de témoignages et notamment du témoignage de cet homme qui a fait un tour du monde à moto et vous a raconté les cuisines du monde. On vous retrouve d'ici une minute sur France Bleu Isère.
France Bleu. Beauté, bois, gastronomie et gourmandise, construction, décoration, mécanique, mode, le savoir-faire isérois est sans limite. Et France Bleu Isère rend hommage aux artisans.
Vie d'artisan. Chaque samedi, découvrez à partir de midi le portrait d'un artisan isérois.
Visitez les coulisses de 120 entreprises de la région et découvrez leurs métiers et savoir-faire. Journée portes ouvertes entreprises du 12 au 19 octobre. Visite gratuite, inscription obligatoire sur www.jpo.grenoble.cci.fr. Un événement organisé par la CCI de Grenoble et ses partenaires.
Stéphane Guillon, Anne Roumanoff, Didier Lockwood, Serge Papagali ou bien encore les Barbarins Fourchus. Pour sa nouvelle saison, le Théâtre Municipal de Grenoble vous emmène en voyage à travers l'humour, la dérision, le théâtre populaire, mais aussi la musique. Pour cette nouvelle saison du Théâtre Municipal de Grenoble, réservez dès maintenant vos billets.
Notre invitée aujourd'hui, Sophie Prévost, vous animez un blog intitulé « Des coquinards rerum », un blog sur la cuisine, sur la pièce. Alors on l'a vu, vous allez visiter les cuisines des châteaux, des musées, mais vous rencontrez aussi des gens qui vous parlent de cuisine. Et je pense à Francis Lamotte, que vous titrez comme l'homme qui marchait sur l'eau, c'est bien ça ?
Qui roule sur l'eau, pardon.
Bah oui, je suis bête.
Bah oui.
C'est à moto. Donc il a fait le tour du monde à moto. Il vous a parlé de cuisine, des cuisines du monde.
Oui, il a effectivement fait le tour du monde sur sa moto et son projet c'est de traverser le détroit de Bering à moto. C'est pour ça que j'ai intitulé
80 km
de dos
oui,
à moto.
Oui, bien sûr.
Voilà, oui. C'est une
enfin.
Logique à toute épreuve. Et effectivement, j'ai vraiment pris plaisir à l'interroger sur son ressenti notamment quant à ce moment de repas partout dans le monde en fonction des peuples et des générations. Donc il a pu témoigner notamment ce qui m'a frappé, c'est notamment sa vision de la cuisine américaine, il était au Texas, je crois, et lui, donc, il a pu voir ces fameuses cuisines immenses qu'on peut voir dans les films ou dans les séries, et il a même remarqué quand même que cette cuisine était tellement grande, mais finalement inversement proportionnelle à l'utilité qu'elle a, puisque les gens ne s'en servent pas, les gens passent l'un après l'autre dans la famille, il n'y a pas de repas ensemble.
Ah, il n'y a pas de repas ensemble.
Voilà, c'est ce qui l'a frappé en tout cas, on ne peut peut-être pas généraliser, mais effectivement, il y a un micro-ondes, et puis chacun vient se réchauffer sa boîte au micro-ondes, mais c'est...
Ah oui, il n'y a vraiment pas de cuisine.
Par rapport à la taille de la pièce, c'est assez étrange. À l'inverse, il a eu une rencontre assez merveilleuse avec une famille Amish, qui là, pareil, a partagé son repas et partagé sa table avec lui sans aucun souci, et notamment c'était un jour de pluie, donc je pense qu'il a bien apprécié. Il m'a raconté des anecdotes sous une yourte en Mongolie.
Ah oui ?
Où effectivement, là, on se replonge dans des maisons, dans des bâtisses du Moyen-Âge ou du XVIIe siècle, où on a finalement une habitation avec un poêle au centre qui, de toute façon, sert en premier à chauffer. Et finalement, comme en Mongolie, ce qu'il a pu regarder, c'était quand même des gens qui mangeaient essentiellement des céréales, des légumineuses, finalement, pas forcément de viande. Et ce moment, finalement, de cuisson et de préparation est très accessoire. il a bien compris que c'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir de la nourriture, c'est déjà très bien. Est-ce qu'il y a du lien, des échanges à ce moment-là? C'est pas forcément la question sur le moment. Donc ça sert à chauffer.
En revanche, en Bolivie, on se sert de la cuisson. Je pense à l'anecdote que vous avez rapportée sur votre blog quand il était donc en Bolivie à 3200 mètres d'altitude. Oui. Et qu'est-ce qu'il a mangé?
En fait, l'anecdote, alors je ne suis pas calée en physique, c'est mon fils pourrait le faire. En fait, il y a une histoire avec l'altitude gros, l'eau ne bout pas ou l'eau doit bouillir à une température beaucoup bien plus élevée en altitude. Donc, ça a été une galère sans nom de ce projet de pâte a été impossible et ça a été justement cocasse pour ça parce qu'ils s'en sont rendus compte sur place et je pense qu'ils ont finalement mangé un parpaing de pâte au final parce que la cuisson a été vraiment une des grandes aventures de cette anecdote-là, oui.
Voilà, donc plein de choses, d'autres choses hein, concernant ce voyage, ce tour du monde à moto qu'on retrouve sur votre blog des Coquina Rerum. Vous ne bougez pas, Sophie Pruvot, ça va être le moment de la question à l'invité. Ce sera juste après Mylène Farmer et Sting sur France Bleu Isère.
13h30, 14h, Michel Caron, France Bleu Isère.
Expensive car and an empty street. There's a wire in my jacket, for this is my trade. It only takes a moment. Don't be afraid, I can hotwire an ignition. Some kind of star, just a poor boy in a rich man's car.
Et le moteur s'allume enfin, nos vies s'enlacent.
And we drive.
Dans une autre situation, tu es company director, une vie de famille. J'ai ce feeling qu'il y a bien plus de choses à dire.
There's some kind of complication.
Il lui dit,
he's the one spends the night with his lover.
Il y a des traces.
Car Mylène Farmer et Sting sur France Bleu Isère.
Les portraits de l'Isère, Michel Caron.
Et c'est le moment qu'on attend tous, le moment de la question à l'invité. Sophie Pruvot, vous avez choisi une amie de longue date, elle s'appelle Fadila, elle est là en direct au téléphone. Bonjour Fadila.
Bonjour.
Mais dites bonjour enfin, Sophie.
Bonjour Fadila.
Bonjour Sophie.
C'est l'occasion, parce que vous ne vous voyez pas souvent. Vous êtes à Nantes, hein, je crois, Fadila.
Oui, oui, c'est ça. Oui, je suis à Nantes et c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, ça fait 6 mois, ouais.
Vous voyez, donc heureusement que France Bleu Isère est là pour réunir les amis. Alors Fadila, allez-y, posez Merci. Votre question, elle vous écoute, Sophie.
Oui, alors Sophie, donc à l'occasion d'une de tes nombreuses tables ouvertes, est-ce que tu te souviens d'un fameux taboulé libanais?
Qu'on appelle entre nous le taboulé le plus cher du monde.
Oh, qu'est-ce qu'il y avait dans ce taboulé pour qu'il soit si cher? Racontez-nous.
Alors, il y avait une aventure, en fait. Effectivement, comme souvent, chacun apportait son petit plat. Fadila apporte un de ses merveilleux pains, d'ailleurs. Et un ami libanais tenait absolument à nous faire découvrir son taboulé. En fait, le taboulé de sa maman, bien sûr,
forcément.
La recette magique. Et une fois sur place, en fait, il avait acheté les ingrédients et on s'est rendu compte, il prend son téléphone portable, c'était il y a quelques années en plus, hein, on n'était pas à l'heure des forfaits,
oui, des internationaux, forfaits limités, internationaux.
Voilà. Et en fait, on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe sur le moment. Et à un moment, on comprend, il va s'isoler au fond du jardin et en fait, on comprend qu'il appelle sa maman au Liban.
Oh là 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 là.
Pour faire la recette bien dans l'ordre, comme il faut, dans les proportions. Et alors, on ne sait plus combien de temps cette conversation a duré pour réaliser la recette. Et en fait, on s'est dit que ça a dû lui coûter une fortune en téléphone. Et on est en train de déguster le taboulé le plus cher du monde.
Bon, est-ce qu'il était bon, ce taboulé, Fadila?
Oui, il était très bon. Disons que il grattait un tout petit peu la gorge.
Ah bon, un taboulé qui rappe. Comment ça se fait?
Parce que la recette originale, c'est avec du persil plat et il avait malheureusement oublié ce petit détail et je crois qu'il avait majoritairement mis du persil frisé. Effectivement, ça chatouille et comme c'est l'ingrédient principal du taboulé libanais.
On imagine.
Voilà.
Le taboulé qui râpe et qui était le plus cher du monde. Merci beaucoup Fadila pour cette anecdote croustillante, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon après-midi à Nantes, merci à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir. Dernière question rapidement, Sophie Prévost, de quelle cuisine vous rêvez? Alors, quelle cuisine rêvez-vous dans l'ordre d'aller visiter?
Alors, dans l'ordre, je ne sais pas, mais c'est vrai que sur mes projets isérois, j'aimerais vraiment beaucoup aller dans le palais du Parlement.
Allô, le Conseil Général.
Allô, oui. Voilà. Mais je leur ai déjà donné quelques coups de coude dans les côtes, mais j'aimerais bien une réponse maintenant. Et puis, effectivement, cette maison à la sortie de Grenoble,
la
Casa Mor.
Voilà. Bon, l'appel est entendu. Merci beaucoup, Sophie Prévost.
Merci.
On retrouvera le lien de votre blog sur notre site francebleu.fr. Nelly Gauthier, bonjour.
Bonjour Michel.
Nos belles années bleues.
Ah oui, on va revenir dans les années 60 un petit peu, les années 66. Et puis on parlera aussi des Corses. C'est un spécial Corse.
Oh là là, dites donc, vous dites
aujourd'hui.
Ça avec un enthousiasme.
Oui, moi j'adore la Corse, j'adore les Corses. Et il y a beaucoup d'artistes corses.